Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Merci de m'accueillir chez vous pour partager la parole de Dieu. Et chose étrange pour moi, je découvrirai comme vous la présidence d'Olivier. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit aura guidé nos cœurs pour répondre aux diverses attentes de chacun. Dans ce temps de crise sanitaire, les conseils sont tellement variés qu'on y perd souvent son latin. Depuis longtemps, nos dirigeants nous font miroiter des lendemains meilleurs. Et pour se mettre à l'évidence que c'était encore du blablabla, une fois de plus, nos attentes s'envolent. Où trouver aussi sur notre globe un endroit paisible dans un monde de conflits armés, de révoltes, proposant un avenir fait de bonheur, mais d'un bonheur permanent qui est assuré. Et si on osait parler de la famille, de l'Église de Jésus-Christ, que deviendront-elles sur la terre après le confinement? Les nouvelles habitudes deviendront-elles des normes? Une famille virtuelle? Une église virtuelle où plusieurs s'y trouveront bien dans l'anonymat et sans engagement, des parents et des chrétiens cool. Et chacun attend le meilleur. Mais que dit notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, sur l'avenir que lui nous propose? Et nous lisons cela dans le prophète Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. Voilà ce que l'Éternel dit. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous invite donc à tourner nos regards vers ce Dieu dont les promesses sont certaines, dignes de confiance et d'être reçues. Et découvrir dans cette parole le secret d'hommes et de femmes qui ont traversé des temps difficiles. Avant de nous laisser interpeller par le récit d'une personne choisie parmi d'autres, ayant vécu ces moments difficiles, en particulier dans le premier avant, c'est-à-dire une histoire passée en l'an zéro de notre ère, elle est cette personne dans une vive attente d'un avenir meilleur. Pour comprendre cette ferme attente, comprendre la foi qui l'anime, pour comprendre l'exemple qu'elle nous laisse, un exemple de foi, d'espérance contre toute espérance, comment comprendre qu'elle a fait confiance à Dieu? Il serait intéressant de décrire dans un premier temps la situation de ruine et de l'état spirituel du monde d'Israël en l'an zéro. C'est la période qui sépare le temps du prophète Malachie jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Une époque de grand silence. Dieu se tait pendant 400 ans. Aujourd'hui, le monde est-il meilleur? Oui, nous avons la parole de Dieu. Elle est répandue. Elle peut être connue de différentes manières, les médias s'y associent. Mais Dieu est-il encore entendu? Alors qu'il parle de diverses manières. Si le monde essaie de trouver le meilleur avenir sans Christ, c'est peine perdue. Mais alors, si Dieu s'arrêtait de parler, que deviendrait notre monde? Et ce temps est proche où Dieu se taira. Dans cette période de l'an zéro de notre ère, où Dieu fait silence, le peuple dort spirituellement. Et le constat de Dieu dans le livre des Proverbes se vérifie, une triste déclaration. Quand il n'y a plus de révélation, quand Dieu se tait, le peuple est sans frein, comme aujourd'hui. Le monde fait ce qu'il bon lui semble. Et c'est la mort. Dans cette période sombre, dans l'an zéro de notre ère, les serviteurs de Dieu, à l'époque les sacrificateurs, mais aussi le peuple de Dieu, déshonorent Dieu. Ils offrent des bêtes malades, c'est-à-dire des bêtes dont on ne sait plus rien faire, qui n'ont donc aucune utilité. Dieu peut-il se contenter de tels sacrifices? Aujourd'hui, sommes-nous meilleurs? Combien nous coûtent encore nos sacrifices de service, des sacrifices de temps, des sacrifices d'amour pour Dieu? Bien souvent, c'est moi d'abord, ce sont mes loisirs d'abord, et le Seigneur est après. Son plaisir est après le nôtre. En l'an zéro de notre ère, le peuple mettait en doute l'amour de Dieu, mettait en doute ses compassions, sa miséricorde. Et si nous lisions Malachie, nous verrions en quelle manière le peuple rappelle à Dieu ses questions. Mais en quoi nous as-tu aimés? En quoi est-ce que nous te volons? Une autre situation, le temple, maison de Dieu, était transformé en lieu commercial, honteux, un lieu qui n'était plus une maison de prière, elle était devenue la caverne des voleurs. Et en plus, au moment de la naissance du Seigneur Jésus, le pays d'Israël était sous la domination romaine. Ainsi donc, dans cette période sombre, peu espéraient la délivrance, excepté quelques hommes et femmes pieux qui attendaient avec certitude l'action de Dieu. Et rappelons quelques-unes de ces personnes qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Zacharie, le sacrificateur, Élisabeth, son épouse, qui donneront naissance à Jean-Baptiste, le précurseur. Joseph et Marie, mère de Jésus. Et puis il y a deux personnes qu'on va retrouver dans le temple qui ont un certain âge, c'est Siméon et c'est Anne, surnommée, connue sous le nom de la prophétesse. Et je voudrais ce matin mettre la loupe sur l'histoire d'Anne. Je l'ai choisie, bien sûr, pour son exemple de foi, pour son exemple d'attente au sein d'une période trouble, difficile, mais aussi ce choix pour clôturer les partages sur la famille d'Azer, commencés en octobre 2020. Le témoignage laissé par le Saint-Esprit dans les évangiles est assez court concernant Anne. Trois versets, mais suffisants pour nous encourager. Que se passe-t-il dans le temple lorsque Anne est présente? Siméon, poussé par le Saint-Esprit, est venu. On y rencontre Marie, Joseph et Jésus qui a 8 jours. Il est présenté au temple et ses parents, Marie et Joseph, viennent pour offrir le sacrifice. Et c'est notre âme, Anne, qui est présente elle aussi. Elle ouvre grand les oreilles et grand ses yeux pour entendre et écouter ce qui s'y passe. Et nous lisons dans Luc au chapitre 2 et à partir du verset 36 le récit concernant Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La délivrance de Jérusalem. Regardons sa carte d'identité à Anne. Son nom, bien sûr, Anne, qui signifie grâce. Sa fonction, prophétesse, c'est-à-dire celle qui encourage, qui édifie, qui console, qui parle de la délivrance. Ses origines, l'évangéliste Luc souligne avec raison deux détails sur ses origines. Premièrement, elle est fille de Phanuel, et quand nous savons ce que signifie ce nom, face de Dieu. Et elle est aussi de la tribu d'Azer, qui signifie bienheureux, bonheur, béatitude. Son âge, 84 ans, état civil, veuve depuis 57 ans, mariée uniquement pendant 7 ans à, l'évangile de Luc ne le mentionne pas. À nous qui vivons au XXIe siècle, en lisant le récit de Anne, nous pourrions nous poser quelques questions. Anne qui signifie grâce, mais où est la grâce de Dieu? Où est le bonheur de Hazer? Dans un pays où un mari et des enfants, surtout pour les Juifs, sont la preuve de la grâce et de la bénédiction de Dieu, du bonheur qu'il accorde. Mais où est ce bonheur dans une vie de veuvage, une vie qui est repliée à l'intérieur du temple et où les sacrificateurs sont peu honorables, un peuple qui est loin de Dieu, un lieu qui normalement est consacré à Dieu et qui est devenu la proie des voleurs, dans un pays qui est sous la domination romaine? Où trouver la grâce et le bonheur? De plus, nous ne lisons aucune mention de lassitude, de fatigue, de plainte, de murmure sur ce qu'elle vit extérieurement. Rien de cela, comme si le cœur de Anne était pleinement satisfait. Ma première conviction, où mon premier avis est profond. Je vous le partage. Anne attendait depuis longtemps le moment qu'elle est en train de vivre, voir, entendre, contempler le salut promis par Dieu. Et elle le découvre en se faisant l'enfant du nom de Jésus qui signifie « Dieu sauve, éternel mon salut ». Elle entend de la bouche du vieux Siméon, « Maintenant, tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Siméon avait pris dans ses mains l'enfant, Jésus. Et cela est ratifié par l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 21. « Elle enfantera un fils, en parlant de Marie, et tu appelleras son nom Jésus. » Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mon deuxième avis, deuxième conviction, quand je regarde la famille où Anne a vécu, quand elle regardait son papa, Phanuel, je pense qu'elle découvrait sur son visage la lumière de Dieu. Phanuel face de Dieu. Un peu à l'exemple de Moïse qui, en descendant de la montagne de Sinaï avec les tables de la loi, devait se cacher le visage, tellement son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Ainsi, je pense que Phanuel, qui signifie face de Dieu, la présence de Dieu était vue sur son visage. Son visage était un rayonnement de joie, de la présence de Dieu en lui. Il goûtait de la bonté de Dieu et cela se voyait. Cela se sentait. Il n'y avait aucune hypocrisie. J'aime voir Anne sur les genoux de son papa. Durant les soirées Phanuel lui racontait l'histoire de sa famille et comment Dieu avait travaillé dans son cœur, dans cette famille. Il lui racontait qui étaient ses ancêtres. Sans doute avait-il dit pourquoi elle était issue de Hazer. Il lui avait sans doute expliqué que Léa, son arrière-arrière-ancêtre, avait été comblée en accueillant cet enfant. Il avait appelé bienheureux Hazer. Une joie profonde, accomplie, que ce qui seul pouvait venir d'en haut et qui n'avait pas été altérée par les circonstances et les époques. Sans doute cette joie allait-elle se retrouver chez Anne? Et puis continuons avec Anne sur les genoux de son papa. Son papa qui lui parlait de Jacob et des bénédictions qu'il avait données à Hazer, des pains en abondance pour le roi. Est-il étonnant que Anne soit prophétesse, elle qui était au bénéfice du pain d'en haut, du pain de vie, allait elle-même donner la consolation, parler de Jésus, qui est le pain de vie. Sur les genoux de son papa, elle avait sans doute aussi entendu les encouragements, les exhortations que Moïse avait fait à Hazer. Une famille qui était bénie, une famille agréable, et à Siméon, à ceux qui entraient dans le temple, en particulier les parents de Jésus, Marie et Joseph, étaient agréables. Elle avait entendu aussi que Hazer devait plonger son pied dans l'huile, et elle-même, ainsi que Siméon, était animée d'une vie pieuse. Elle avait entendu de son papa que Hazer devait fermer les verrous avec du fer et de l'airain. Son cœur à Anne était dévoué pour le Seigneur. Que sa vigueur durait autant que ses jours. Et Anne semblait pour moi refléter ses bénédictions reçues chez Hazer, son ancêtre. Et rappelons-nous que la période qu'elle vivait était une période sombre et morose. 84 ans, mariée uniquement 7 ans, puis son mari décède, veuve, sans ressources, sans couverture sociale, comme nous pouvons connaître dans notre pays. Cela devait être difficile pour elle. Bien sûr, la loi, la Torah, était de son côté pour retrouver un foyer, mais son choix avait été de rester seule. Peut-être, la parole de Dieu ne nous le dit pas, mais peut-être pour mieux servir Dieu et les autres. Sa maison n'est autre que la maison de Dieu, dans le temple à Jérusalem, qu'elle ne quittait pas. Sa vigueur, elle sert Dieu nuit et jour. Un âge, 84 ans, où on pourrait lever le pied, mais non. La fatigue ne semble pas l'atteindre, du moins moralement et spirituellement, selon les bénédictions qu'elle avait entendues de son papa et prononcées par Moïse. Sa vigueur était toujours fraîche, présente. Les rides marquaient son visage. Son être intérieur, en tout cas, n'était pas altéré par ceci, ni par son statut de veuve. Elle avait reçu le surnom de prophétesse, c'est-à-dire une personne qui se nourrit du pain d'en haut, une personne qui va montrer l'exemple de ce pain, un pain qui va être dispensé par elle. Elle va, dans son rôle de femme édifier, faire grandir. Elle va consoler, apaiser la souffrance, soulager et montrer quel est le chemin du salut. Son secret, pour garder cette fraîcheur dans les difficultés de sa vie, et en cela elle sera exemple pour nous, elle nous montre qu'à une situation désespérée, il y a toujours une issue avec Dieu, que la vie triomphe toujours de la mort, et que la lumière finit toujours par l'emporter sur les ténèbres. Son secret, jeûner, prier, louer, servir, témoigner de Dieu. Une femme de prière, elle parlait à Dieu des autres, de la situation du peuple de Dieu qui s'était endormi et qui était loin. Elle parlait des hommes que Dieu attendait pour le servir dans le temple. Il y aurait de quoi délaisser tout cela, mais non, elle les aimait profondément et elle ne manquait pas de les mettre dans sa prière devant Dieu. Elle témoigne en plus, elle parle de Jésus, le vrai libérateur, le vrai pain de vie venu d'en haut. Elle le voit au travers de ce petit enfant. Mais quelle foi! Elle nourrit son âme de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit, et aussitôt, elle en parle autour d'elle. Aujourd'hui, les boulangeries sont désertées. Elles sont de moins en moins nombreuses parce que les gens font régime. On n'aime plus prendre du pain. Bien-aimés, sur le plan spirituel, nous devons refuser que la boulangerie du ciel soit désertée. Elle doit toujours être visitée, d'autant que le pain qui nous est donné, il est gratuit, il nourrit notre âme. Nous sommes invités à nourrir ceux qui nous entourent de ce pain d'en haut, de Jésus. Elle fait l'œuvre d'évangéliste, car Jésus est le seul nom par lequel l'homme puisse être sauvé. Elle proclame à l'avance le salut de Dieu qu'elle voit par la foi. Pas besoin pour elle d'une voix forte, ni d'un porte-voix. Seul le souffle puissant du cœur habité par le Saint-Esprit devient un parfum qui se répand, même si le vase qu'elle est elle-même est fragile. Et de ce vase naît alors, se répand un parfum dans la maison, à la fois devant Dieu et parmi les hommes. N'oublions pas que nous sommes bien-aimés, une lettre lue et connue de tous les hommes, que nous sommes odeur de Christ dans ce monde, que nous sommes lumière et sel dans ce monde. Son cœur était fermé avec des verrous, d'airain et de fer à tout ce qui détruit et accable, et ouvert à tout ce qui est digne de louange, d'action vivifiante de la part de Dieu. Elle est femme de foi. Elle attend le salut, la délivrance. Elle désire ardemment la réalisation des promesses de notre Dieu. Elle en parle avec foi et avec amour. Elle est ainsi porteuse de consolation, d'une espérance qui s'appuie sur une parole qui est éternelle, qui lui vient pour elle des prophètes, et pour nous, qui vient de la parole entière et qui est confirmée par le Saint-Esprit. Bien-aimés, l'Église a besoin de tels hommes et de telles femmes, de tels consolateurs, de tels hommes et de telles femmes d'action qui servent Dieu et le prochain. Des hommes et des femmes qui savent plonger leurs pieds dans l'huile du Saint-Esprit pour que leur vie soit exemple. Elle loue Dieu. La louange met Dieu à sa vraie place dans sa vie. Oh, bien sûr, il est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais quand les difficultés sont présentes, où tout semble s'acharner contre nous et qu'on attend la délivrance, comment encore trouver les sources, la source, les forces pour louer Dieu? Et pourtant, la louange est le secret d'une vie de victoire, car elle s'appuie sur un Dieu tout-puissant. Elle est le reflet de notre foi. Elle est la preuve de notre confiance totale en Jésus. Dans ma vie, j'ai rencontré, comme chacun de vous, bien des découragements. Et je confesse sincèrement que j'ai oublié tout simplement de louer le Seigneur de gloire. Alors, ma prière, c'est donne-nous, Seigneur, de pouvoir te louer sans cesse et en toutes circonstances pour que ta volonté se réalise, car lui seul en est digne. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas s'en sortir en comptant sur ses propres forces. Elle avait besoin de Dieu, qu'elle avait besoin des autres pour s'encourager réciproquement. Elle était une femme de communion. Elle n'est pas restée seule, mais elle recherchait la présence de ceux qui avaient ce même désir de délivrance, d'attente du Seigneur. Elle ne quittait pas le temple. Le temple, dans la pensée juive, c'est la maison de Dieu, l'endroit où l'Éternel est présent. Elle ne veut pas, elle, Anne, quitter la présence de celui qui est devenu sa raison de vivre. C'est en lui qu'elle puise la force et le courage pour surmonter sa situation difficile. Pour nous, rester dans le temple ne signifie pas faire notre demeure dans un lieu de culte, dans la maison de prière où l'Église se rassemble. Pour nous, le temple, c'est vivre constamment dans la communion avec Dieu, lui livrer notre vie entière pour qu'il en fasse son temple avec son esprit. C'est simplement une question d'attitude intérieure et non de lieu précis. Si Dieu occupe constamment nos pensées, nous pouvons désormais demeurer dans le temple, dans sa présence, tout en travaillant, tout en vaquant à nos différentes occupations, même pour nos sœurs et nos maris, bien sûr, en préparant le repas. Nous exhorter à ne pas délaisser nos assemblées en voyant le jour du Seigneur Jésus s'approcher. Telle est l'exhortation de la parole de Dieu. Ne négligeons pas le rassemblement des saints. Conclusion. Avec Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit ta santé, tu n'es pas inutile. Le monde aujourd'hui donne des C4. Fini, plus besoin de toi. Pas avec Dieu. Il recherche toujours des collaborateurs. La moisson est grande. Son œuvre est immense. Il a besoin de nous. Nous avons besoin, bien aimés aussi, les uns des autres pour nous encourager. Le virtuel que nous vivons aujourd'hui doit rester une option pour ce temps de confinement et pour respecter la loi belge. Ce virtuel n'est pas voulu de Dieu, mais nécessaire pour ce temps de pandémie. L'Église et le monde ont un urgent besoin d'hommes et de femmes de prière. Rappelons-nous, si deux d'entre vous s'accordent, alors bien des choses, bien aimées, si nous nous accordons pour prier, il y a bien des choses qui vont changer en nous et dans l'Église. Le blablabla cesse avec Christ, car sa parole est vraie, ses projets sont certains, ils se réalisent. Dieu n'est pas menteur. Dieu nous appelle dans ce monde à être des témoins de Christ, par notre vie et par nos paroles. Il y a tellement de personnes qui nous entourent, que nous côtoyons, que nous rencontrons, qui ne connaissent pas encore le libérateur, Jésus-Christ. Rappelons-nous que la source qui a coulé pour Anne est la même qui coule pour tous et toutes, pour tout âge, jeune et moins jeune, à chacun de ne pas fermer le robinet de cette source. Dieu nous promet qu'en Jésus, le chemin se termine par la victoire parfaite. Dieu a un projet de paix et non de malheur. Alors, bien-aimés, que le témoignage de cette femme nous encourage à poursuivre notre route. Une route semée de difficultés, de souffrances, d'incertitudes. Mais Dieu a promis la félicité éternelle. Il tient parole. Encourageons-nous donc les uns les autres par cette promesse de la délivrance. Le Seigneur est proche. Nous entendons sa voix dans le dernier livre de la Bible qui dit « Je viens bientôt ». Cela doit être un sujet de joie parfaite pour nos cœurs dans un monde pervers et corrompu et sans espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors que la charité du plus grand nombre de chrétiens se refroidit, alors que la foi diminue, que le zèle s'est brutalement estompé, oserions-nous dire que l'Église est dans un état d'endormissement au milieu d'un monde qui rejette Christ et va vers ses jugements? Oui, le monde attend des jours meilleurs. Oui, le monde attend une délivrance. Mais sans Christ, alors c'est illusoire. Nous avons la réponse. Alors soyons de ceux qui la proclament. Levons les cœurs en haut. C'est de là que vient la délivrance. Et je termine par ce que l'apôtre Jean déclare à Philadelphie dans l'Apocalypse. Je viens bientôt, dit Jésus. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu et de mon nom nouveau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je laisse maintenant la place à Olivier pour clôturer. Le Seigneur vous bénisse et nous encourage dans le chemin. Amen.